Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Un homme noir, le visage creusé par les soucis, et à sa gauche, l'inscription « Je suis réfugié, artisan d'art ». Le mot « réfugié » est barré d'un trait rouge. On lit donc « Je suis artisan d'art ». C'est la photo qui illustre la page d'accueil du site internet de la Fabrique Nomade, une association créée récemment à Paris et qui souhaite accompagner l'insertion professionnelle des réfugiés et migrants artisans. On en parle juste après un retour sur un triste anniversaire. Il y a 80 ans, les nazis inauguraient à Munich l'exposition « Art dégénéré ». Au micro, c'est Constance von Kötze. Guten Tag, bonjour à tous. Tout autour de nous, vous voyez les produits de cette folie, de cette insolence, de cette incompétence et de cette dégénérescence. C'est avec ces mots qu'Adolphe Ziegler, lui-même peintre et président de la Chambre des Beaux-Arts, ouvre le 19 juillet 1937 à Munich l'exposition « Art dégénéré ». Il s'agit pour les nazis de confronter le visiteur à deux conceptions artistiques, l'art moderne d'un côté, l'art officiel allemand de l'autre. Emmanuelle Polak, historienne et spécialiste du pillage de l'art en France, nous explique tout d'abord ce que signifie cette expression « art dégénéré ».
C'est en fait une expression pour présenter ce que le peuple allemand ne doit pas aimer, et c'est surtout l'art qualifié d'art moderne. Beaucoup des expressionnistes allemands qui, à l'époque, détonnaient, qui voulaient proposer un nouveau langage pictural et qui se trouvaient très libres par rapport à la représentation de la nature.
Est-ce que vous pouvez nous replonger dans cette exposition, nous dire un peu qu'est-ce qu'on pouvait y voir ?
Oui, il y a beaucoup d'expressionnistes allemands, Otto Müller par exemple, ou Franz Marc, Max Liebermann, Auguste Mack. Mais à côté de ces expressionnistes allemands, il y a également des peintres étrangers. Des œuvres de Pablo Picasso sont présentées. On trouve deux œuvres de Matisse. Et c'est vrai que ces artistes sont mis au banc des beaux-arts lors de la période du Troisième Reich. Et à travers cette exposition, les nazis vont avoir la volonté d'éduquer le peuple allemand et de lui demander de ne absolument plus avoir la possibilité d'aimer les peintres modernes, la peinture moderne, cette peinture qu'Hitler ne comprend absolument pas. Hitler, par deux fois, a échoué à l'entrée de l'école des Beaux-Arts de Vienne et il en garde une rancœur, une amertume très importante, et il se targue, il se pique de se mêler des Beaux-Arts lorsqu'il prend le pouvoir en 1933.
Parle avec Emmanuelle Polak de l'exposition « Art dégénéré » inaugurée il y a 80 ans à Munich et qui présentait près de 700 œuvres appartenant à divers courants artistiques comme le surréalisme, le dadaïsme, le cubisme. Mais comment ces œuvres modernes sont-elles arrivées entre les mains des nazis ?
Alors, les œuvres n'arrivent pas par hasard à l'exposition « Entartete Kunst ». Elles ont été déjà sélectionnées. Les musées allemands, dès 1935, vont être épurés des œuvres les plus modernes, et elles vont être exposées au public, mais par la suite, certaines d'entre elles seront vendues. Il faut que nous nous souvenions de la vente qui a eu lieu en Suisse, à Lucerne, le 30 juin 1939. Les acheteurs internationaux vont se presser à la vente de Lucerne, car il y aura la possibilité de faire des grandes affaires. Et ce sont des œuvres qui ont maintenant une valeur très importante.
Et sur l'impact de l'exposition sur les artistes concernés ?
Alors, les artistes concernés voient leur carrière brisée. Certains ont pu être dénoncés par des voisins et ils vont être véritablement persécutés avec l'interdiction formelle de poursuivre leur carrière artistique.
Est-ce qu'il a été possible, ou maintenant aussi pour les historiens, de mesurer l'impact réel sur le public de cette exposition ?
Bien évidemment, nous n'avons pas des témoignages, mais nous avons des photographies. Nous avons des photographies de cette exposition où les gens se pressent et où de bon ton d'avoir un visage dégoûté. La scénographie invite à ce dégoût. Les œuvres sont présentées très proches les unes des autres. Il y a des grandes phrases qui courent le long des murs et qui sont des slogans antisémites, racistes. Il y a également les prix artificiellement gonflés qui montrent combien les musées allemands avaient acheté ces œuvres et à quel point c'était indécent pour un peuple qui souffre de l'inflation. Donc tout de suite, ça convoque l'effroi et la colère des visiteurs allemands qui seront très, très nombreux. Il faut dire que cette exposition a transité à travers toute l'Allemagne, qu'elle était gratuite et qu'elle a été réalisée pour vraiment amener le peuple allemand à honorer cet art moderne.
Kim, brodeuse au Vietnam, caissière en France. Ali, menuisier afghan, agent d'entretien en France. Shamim, brodeur au Bangladesh, pizzaïolo en France. Voilà ce qu'on peut lire sur le dépliant d'une association créée récemment à Paris et qui s'est donnée comme objectif de lever les barrières empêchant les artisans migrants et réfugiés d'exercer leur vrai métier, des métiers qui sont souvent aussi leur passion. Cette association s'appelle La Fabrique Nomade. Sa fondatrice et ses bénévoles veulent donner à ces artisans les outils d'une professionnelle adaptée ou du moins la possibilité de pratiquer régulièrement leur savoir-faire et de le partager. Anne-Julie Martin les a suivis pendant plusieurs mois. Voici son reportage.
C'est une forme traditionnelle à Sedan pour apporter l'eau pour laver les mains. Darfour et Kordofan, ils ont fait très 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 bon potier et très fin. Parce qu'à Sedan, ils ont fait le grand pot pour boire l'eau fraîche.
Des grands pots pour que l'eau refroidisse.
Ah ouais.
Formé aux Beaux-Arts de Khartoum, où il a exercé son métier d'artisan potier pendant 20 ans, Yasser El Amine a quitté le Soudan en 2014. Il a obtenu le statut de réfugié en France et c'est ici qu'il a pu renouer avec le modelage et surtout la sculpture après avoir été contraint d'abandonner cette dernière dans son pays.
Il y a un groupe islamiste. Toujours ils ont fait le problème pour moi. Je ne peux pas faire la sculpture là-bas. Depuis 1996, je n'ai pas fait de sculpture parce qu'ils ont cassé toujours la sculpture. Ils ont pensé que c'est interdit à l'islam. Ils ont toujours un problème avec l'art.
Avec l'art.
Ah oui, exactement. L'art, par exemple, on ne danse pas, on ne chante pas. Le théâtre, non. Le cinéma, non. C'est tout, non.
En 1994, il avait ouvert le premier atelier de poterie de la capitale soudanaise où l'on fabriquait des pots, des sculptures murales et des fontaines.
À Sedan, la différence, c'est la terre. Parce que la terre, elle n'a pas besoin de trop haut degré. De...
Oui, c'est une terre à basse température. C'est plutôt de la faïence.
Ah oui, 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 exactement. C'est 700 degrés, d'accord. 800 degrés.
Yasser El Amine enseignait également la poterie à l'université à des femmes déficientes mentales et malvoyantes. C'est d'ailleurs de l'une des techniques de modelage pour malvoyants qu'il s'est inspiré pour créer des tasses et des sous-tasses qui s'emboîtent pour la collection Traits d'Union. On retrouve Yasser El Amine dans une galerie parisienne à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. À ses côtés, Inès Mesmar, fondatrice de l'association La Fabrique Nomade.
La Fabrique Nomade a présenté la collection Traits d'Union. C'est une collection d'objets qui réunit trois artisans réfugiés et trois designers qui ont collaboré ensemble pendant 2 mois pour créer ces objets qui représentent en fait le savoir-faire des artisans.
Inès Mesmar a créé La Fabrique Nomade il y a 1 an et demi.
L'idée est émergée suite à un échange avec ma mère. J'avais 35 ans, j'ai découvert le métier qu'elle exerçait dans son pays. Elle était brodeuse dans la médina de Tunis. J'ai fait le parallèle avec les personnes migrantes arrivant ici, à la barrière de la langue, l'absence de réseau, le fait que l'expérience à l'étranger n'est pas reconnue en France et la dévalorisation aussi. On perd pied dans cette société nouvelle et il y a une forme de dévalorisation qui se met en place, une perte d'estime de soi et souvent on est conduit par la survie, c'est-à-dire trouver n'importe quel emploi et une forme d'effacement de soi qui se met en place. Ce qui m'a amené moi à réfléchir à une manière de les accompagner qui puisse leur apporter du sens dans la vie qu'ils ont ici et c'est du sens à partir de ce qu'ils sont et ce qu'ils savent faire et donc leur métier.
Elle espère ainsi participer au changement de regard porté sur les migrants.
Mon métier, je l'ai pris au Sénégal.
Ablaïmar, lui, est tailleur brodeur.
Je suis commencé tôt, à l'âge de 14 ans. Cet métier-là, je l'ai amené ici. Il y a le stress parce que l'immigration, c'est pas facile aussi. Les papiers, quand vous quittez ton pays, tu as laissé ta famille, mon père, des frères, des sœurs et tout ça, c'est pas facile du tout.
Il passe souvent du temps dans un petit atelier de couture africaine dans le nord de la capitale où il confectionne des vêtements pour sa communauté. Mais désormais, il y reçoit aussi régulièrement la visite de Sabatina Lecha, la brodeuse avec qui il a travaillé en duo. Une fleur.
C'est une broderie Corneli.
Qu'est-ce que c'est la spécificité de la broderie Corneli?
C'est une seule fil qui continue, ça coupe pas quoi.
C'est un seul fil pour faire tout le motif de broderie?
Tout le motif, oui. C'est les Français qui l'ont créé cette machine-là. Sabatina, elle crée beaucoup de motifs aussi. On a fait des dessins. Ouais. Souvent, elle vient ici, on sent des idées. Aussi, j'étais à l'atelier de Sabatina. Elle m'a prié un peu de la broderie à la main quand même.
Le premier motif qu'Ablaï m'a fait, ça me faisait penser à des peintures de Matisse. Donc quand je t'ai montré, on allait au musée ensemble. Tu as découvert des artistes occidentaux que tu ne connaissais pas forcément. Et du coup, tout ça, ça nous... Enfin...
C'est une grande ouverture quand même.
J'ai beaucoup travaillé dans les ateliers de haute couture qui sont des univers très féminins. Là, je trouvais ça aussi intéressant de travailler avec un homme qui travaille la broderie, ce qui est très rare en France.
Merci, Wadibi.
La pasta.
La pasta, un petit peu le ton.
Et parmigiano.
Si.
Vous parlez italien entre vous? Oui, parce qu'Abla, il a vécu en Italie avant de venir en France.
Si, on est stato di là.
Broder, tisser des liens, nouer des amitiés. Ablaïmar parle d'une nouvelle famille. La fabrique nomade crée bien plus encore que des réseaux professionnels.
La fabrique nomade, un reportage d'Anne-Julie Martin à retrouver dans son intégralité sur notre site internet dw.com/français. Et puis vous pouvez aussi télécharger ce magazine depuis la rubrique médiathèque et nous écrire bien sûr encore et toujours à français@dw.com. Bonne semaine à toutes et à tous, à la prochaine et tchuss.